Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Laura Slimani, candidate génération aux élections européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, j'aimerais votre réaction aux attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un terroriste d'extrême droite a assassiné des dizaines de personnes dans deux mosquées.
C'est évidemment une grande tristesse et un grand désarroi comme à chaque attentat. Une grande tristesse de voir toutes ces vies brisées, toutes ces familles brisées par cette violence inouïe. Encore une fois, la démonstration que il y a une extrême droite européenne, il y a des suprémacistes blancs en Europe et dans le monde, dans le monde en l'occurrence là, puisque c'est en Nouvelle-Zélande, qui aujourd'hui prônent l'extermination d'une partie de la population et en l'occurrence des musulmans. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y avait eu Anders Breivik en Norvège il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, il y a cet individu qui se réclame d'ailleurs fait allégeance à Anders Breivik et se réclame de son soutien. Ça, c'est l'enquête qui le montrera. Mais dans tous les cas, il ne faut pas prendre à la légère. On le voit bien, la haine qui peut se répandre à la fois et qui peut être parfois aussi portée par un certain nombre de forces politiques aujourd'hui en Europe, à l'aube d'élections européennes qui annoncent une extrême droite dans beaucoup de pays en progression, dans un contexte dans lequel il y a une xénophobie qui monte et qui se aujourd'hui qui touche un grand nombre de personnes, et notamment les personnes migrantes qui fuient des pays en guerre et la misère. Je pense qu'il faut prêter attention à ce phénomène et bien sûr tout simplement exprimer notre peine et notre solidarité avec toutes celles et ceux qui sont touchés par cet attentat.
Vous évoquez la banalisation des discours islamophobes, les discours de certaines personnalités politiques et plus encore les réseaux sociaux. Il y a aussi cette théorie du grand remplacement qui circule au sein de la fachosphère. Et visiblement, le terroriste en Nouvelle-Zélande se réclamait de cette théorie. Est-ce que finalement, il n'y a pas certains discours qui sont des pousses au crime, qui poussent au passage à l'acte ?
En tout cas, on voit qu'il y a des personnalités qui sont prêtes à passer à l'acte, au nom d'un certain nombre d'idéologies qui, effectivement, théorise le fait qu'il y aurait aujourd'hui un remplacement de la population blanche par la population non blanche. Globalement, c'est à peu près ça l'idée du grand remplacement. Et ce qu'il faut dire, c'est d'abord l'absurdité totale de ces thèses. Le monde et l'Europe en particulier, mais finalement les migrations font partie de l'humanité et en ont toujours fait partie. En France, on parle beaucoup de l'islam. L'islam est présent en France depuis de nombreux siècles. Et donc finalement, ça, c'est des identités communes qui sont de plus en plus riches, qui se créent. Et je pense qu'il faut plutôt en être fier plutôt que de le déplorer. Mais en plus, effectivement, cette théorie et cette volonté finalement de s'accrocher à une identité recroquevillée sur elle-même, on le voit bien, est extrêmement dangereuse. Et donc il faut combattre cela. Et moi, je pense qu'en tant que les mouvements de gauche doivent aussi reprendre le flambeau de la lutte contre le racisme, reprendre le flambeau de l'accueil de toutes et tous nos frères et nos sœurs en humanité. Et c'est quelque chose qu'il faut porter extrêmement fortement dans le cadre de ces élections européennes, alors qu'on a des politiques migratoires qui se durcissent dans tous les pays et qui pointe du doigt l'étranger ou les étrangères comme responsables des maux de l'Europe.
Il y a une bataille culturelle à mener sur ce point. Vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est plutôt les thèses du Rassemblement national qui ont le vent en poupe, y compris dans les médias.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une progression. En tout cas, il y a une banalisation et une acceptation d'un certain nombre de propos d'ordre raciste, xénophobe en France. On sait d'ailleurs que ça donne lieu à des actes, à des passages à l'acte antisémites, à des passages à l'acte islamophobes et d'autres formes de racisme. Donc ça, on sait que c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le Le défi, encore une fois, c'est que il y ait aujourd'hui des, et donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait des personnalités, des voix fortes qui s'expriment en faveur de l'accueil. Et nous, c'est ce que nous faisons à Génération, en faveur de l'accueil, en faveur du vivre ensemble, parce que c'est la seule voie possible aujourd'hui pour l'humanité si nous voulons vivre en paix.
Laura Slimani, on va parler tout à l'heure longuement des élections européennes. Un mot tout de même de l'Algérie, où une très importante manifestation s'est tenue encore aujourd'hui, preuve que le renoncement du président Bouteflika à un cinquième mandat n'a pas réglé la crise, la contestation continue. Votre mouvement, Génération, est solidaire du soulèvement de la jeunesse algérienne.
Oui, bien sûr, mais parce qu'on doit être solidaire de toutes celles et tous ceux qui se battent aujourd'hui dans le monde pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit à la démocratie. Moi, je pense que la démocratie n'est pas réservée à certains peuples et qu'il est important que d'aujourd'hui d'entendre enfin, j'ai envie de dire, ce peuple qui se soulève enfin parce qu'il a été traumatisé par des années noires, par des années aussi de colonisation, et que tout ça pèse aussi dans la conscience politique algérienne. Moi, je suis extrêmement émue de ce qui se passe en Algérie, à la fois en tant que femme politique, effectivement, parce que c'est émouvant de voir ces personnes qui sont prêtes à se soulever collectivement pour un idéal de liberté et de démocratie, mais aussi parce que, comme beaucoup de Françaises et de Français, mon histoire personnelle,
vous avez un lien familial avec l'Algérie,
en particulier, est liée à l'Algérie. Et voilà, donc c'est effectivement très très émouvant de voir finalement la conscience politique algérienne revenir et arriver sur le devant de la scène. Moi, je trouve ça extrêmement réjouissant, extrêmement enthousiasmant. Évidemment, aujourd'hui, c'est quand même une victoire préalable d'avoir réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de cinquième mandat, mais j'ai vu que les slogans dans les manifestations avaient changé et que maintenant c'était « on ne veut pas non plus du prolongement du quatrième mandat ». Les Algériens et les Algériennes ne sont pas dupes du pouvoir qui aujourd'hui est en place en Algérie, des clans qui aujourd'hui dirigent l'Algérie. Donc je pense qu'il faut qu'ils tiennent bon avec notre soutien, avec le soutien de toutes celles et ceux qui sont attachés aujourd'hui à la liberté, à la démocratie.
Marine Le Pen agite la peur, je cite, d'une submersion migratoire en raison de cette crise en Algérie. Elle préconise de suspendre les visas délivrés aux Algériens. Quelle est votre réaction ?
Que c'est totalement absurde, que ce serait profondément discriminatoire, et qu'elle ferait mieux de se taire, en fait, hein, comme souvent. Mais on ne peut que se réjouir de ce qui se passe en Algérie, et ce qu'il faudrait, c'est que les partis politiques aujourd'hui, que les personnalités qui ont quelque chose à apporter finalement pour aider ces mouvements, eh bien puissent aussi mettre leur pierre à l'édifice. Et moi, je pense qu'il faut soutenir fortement ce qui se passe. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir une transition qui se fasse dans la paix et finalement de manière progressive. Je pense que le peuple algérien l'a montré dans les manifestations. Ces manifestations calmes, joyeuses, très collectives et massives en même temps. Et donc, ils ont montré une forme de maturité, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme cela. Il ne faudrait pas que le pouvoir, par contre, réagisse de manière excessive à cela. Il faut qu'il puisse y avoir aujourd'hui une transition démocratique en Algérie et qu'elle se fasse dans le calme. Les propos de Marine Le Pen sont, comme d'habitude, à côté de la plaque et inacceptables.
Laura Slimani, vous êtes donc candidate aux élections européennes avec le mouvement Génération. Vous avez vous-même une forte expérience européenne puisque vous avez dirigé les jeunes socialistes européens. Vous êtes une européenne convaincue ?
Oui, parce que d'abord, il me semble évident, en fait, qu'aujourd'hui, les grands défis qui sont devant nous, la question du dérèglement climatique, la question sociale des inégalités, la question finalement de l'accaparement des richesses par quelques-uns, et la question aussi de demande démocratique très forte qui s'exprime aujourd'hui partout dans le monde, elle ne peut se résoudre à l'échelle nationale. Et ce serait une erreur de faire croire et de croire que l'on pourrait aujourd'hui résoudre le défi climatique à l'échelle nationale. Et donc c'est pour ça qu'il me semble que l'espace européen, qui en plus est lui-même la plus grande réussite finalement en termes de coopération entre des peuples différents, eh bien il serait il serait aujourd'hui désastreux de penser qu'il faille en sortir pour arriver à peser politiquement face à Google, face à Amazon, face à Netflix et à tous ces géants de l'internet qui dont les profits sont supérieurs au PIB d'un certain nombre d'États. Donc aujourd'hui, c'est important de penser l'action politique à l'échelle européenne. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est parfait en Europe. Et au contraire, nous voulons, avec Benoît Hamon et beaucoup d'autres, porter un message de transformation de l'Europe. Mais vous savez, finalement, certains et certaines disent que si, comme l'Europe n'est pas suffisamment démocratique, comme l'Europe n'est pas suffisamment sociale, comme elle n'est pas suffisamment écologiste, il faudrait sortir de l'Europe. Mais moi, je pense aussi que la France, elle n'est pas suffisamment démocratique, elle n'est pas suffisamment sociale, elle n'est pas suffisamment écologiste. C'est pas pour ça qu'on préconise de sortir de la France. Donc, l'Europe, on est dedans et maintenant, il faut travailler à la transformer de l'intérieur.
L'Union européenne est loin d'être une réalité pour de nombreux jeunes Français. Ils apprennent des langues étrangères, mais il n'y a pas systématiquement des voyages scolaires dans les pays européens. Erasmus est un vrai succès, mais ça ne concerne qu'une poignée d'étudiants. Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition de Rachid Temal, un des responsables du Parti Socialiste, d'organiser par exemple un séjour de 6 mois dans l'Union européenne pour tous les jeunes Français ?
J'ai rien contre. Je pense que effectivement, c'est important qu'aujourd'hui l'Union européenne ne soit pas une réalité pour une minorité, mais pour une majorité. Et c'est vrai que à la fois le programme Erasmus est un programme qui a une réelle est une réalité pour de nombreux jeunes en Europe, mais effectivement il ne touche qu'une minorité de ces jeunes. Et donc c'est important de réfléchir à cela de manière plus globale et plus universelle. Mais je ne pense pas que ça soit la seule chose à faire. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne demandent pas tant un droit à la mobilité qu'une action en faveur du climat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ils sont des centaines, des milliers, des centaines de milliers probablement aujourd'hui partout dans le monde à réclamer finalement que les dirigeants agissent en matière climatique. Et donc il faudrait pas par des subterfuges on n'arrivera pas en tout cas par ces subterfuges à leur faire oublier cette demande très forte aujourd'hui d'une action résolue pour lutter contre le dérèglement climatique.
On va parler des questions climatiques tout à l'heure, mais comment faire aimer l'Union européenne? On met de côté la politique que vous dénoncez de la Commission européenne, mais comment faire aimer l'Union européenne aux jeunes générations?
Pour mes grands-parents, l'Union européenne, c'était la promesse de paix. Une réalité de paix aussi, après quand même deux guerres mondiales extrêmement meurtrières. Pour mes parents, ça a été la promesse et la réalité de la prospérité pour cette génération qui a vécu le plein emploi, les Trente Glorieuses, et puis finalement une accélération des échanges à l'échelle européenne, une accélération aussi de la mobilité. Pour ma génération, c'est plus compliqué de voir ce que l'Europe nous a concrètement apporté. Ça ne veut pas dire que ça ne nous a rien apporté, mais ça veut dire qu'on ne voit pas finalement forcément ce qu'on y a gagné. Et donc c'est important aujourd'hui de porter un projet qui soit positif à l'échelle européenne. Et c'est ce que je disais sur le fait qu'aujourd'hui, la seule manière de répondre à la question de l'évasion fiscale, de la confiscation d'un grand nombre de richesses par des multinationales et une poignée d'actionnaires de ces multinationales, la vraie réponse, elle est européenne. Elle est de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui de vraies protections contre la fraude fiscale. C'est la même chose en matière écologique, c'est la même chose en matière sociale.
Alors vous êtes en train de nous dire, Laura Slimani, que la vraie réponse à tous ces problèmes, elle est européenne. Et en même temps, il faut des gouvernements qui soient d'une certaine sensibilité pour que ces problèmes soient réglés. Là, on a affaire à une élection européenne, c'est le Parlement européen, ce ne sont pas des élections nationales. Quel que soit le résultat de ces élections, est-ce que ça va vraiment changer les choses ?
Mais il est tout de même possible de changer un certain nombre de choses à traité constant.
Emmanuel Macron restera président après l'Union européenne, même si vous êtes plus fort qu'Emmanuel Macron.
Oui, mais vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Emmanuel Macron a déclaré, lorsqu'il a été élu président de la République, que les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes seraient sa grande priorité nationale, sa grande cause nationale. Il y avait à l'échelle européenne une directive autour de la conciliation entre vie privée et vie familiale qui était débattue au moment où il a été élu. Alors qu'il s'exprimait en public en France pour un allongement du congé paternité, pour un congé parental qui permette aux femmes et aux hommes de partager mieux les tâches à la maison. Et on sait que c'est aujourd'hui l'un des nerfs de la guerre en matière d'égalité réelle. Alors qu'il tenait ce discours-là, à l'échelle européenne, il prenait la tête des pays, de la fronde des pays qui se sont opposés à ce qu'on puisse bénéficier d'un congé parental qui soit suffisamment rémunéré pour qu'il soit attractif, notamment pour les pères qui le prennent aujourd'hui très peu. Il a pris la fronde de ces États opposés à cette mesure pourtant de progrès et à laquelle il se déclarait favorable en France. Et donc ce que ça nous dit, ça, c'est quoi? C'est que finalement, aujourd'hui, il y a une forme d'absence des citoyens et des citoyennes européens à Bruxelles, connaissance des débats politiques qui ont lieu, et donc, finalement, d'hypocrisie totale des États quand ils reviennent en France expliquer ce qui s'y passe. Et donc, moi, je pense que face aux lobbies, face aux gouvernements qui sont présents à Bruxelles et qui utilisent le levier européen, il faut qu'il y ait un lobby citoyen, finalement, il faut que les citoyennes et les citoyens s'emparent de ces élections. Et avoir un parlement de gauche demain à l'échelle européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de bloquer le budget européen tant qu'il ne consacre pas des moyens suffisants à la transition écologique et par exemple au droit des femmes. Ça, c'est possible à l'échelle européenne. Le Parlement européen a tout à fait la capacité de bloquer les négociations et c'est cela que nous portons avec le Printemps européen et Génération.
Laura Slimani, vous avez dit à l'instant que les Français finalement avaient une méconnaissance des activités au Parlement européen, ce qui permet justement à des dirigeants de dire quelque chose sur le plan national et de dire autre chose au niveau européen. À chaque élection européenne, il y a une forte médiatisation des actions menées par les parlementaires européens. Et puis après, c'est à nouveau l'opacité. Est-ce qu'il faut médiatiser davantage les travaux des parlementaires? Par exemple, retransmettre les travaux du Parlement européen sur France 3, comme on le voit avec l'Assemblée nationale, par exemple.
En tout cas, il y a un travail journalistique important à mener à l'échelle européenne, de décryptage aussi de ce qui s'y passe. Je pense que, et d'ailleurs, il y a eu quelques papiers récemment qui ont montré une chose, qui était l'ultra présence des lobbies à l'échelle européenne.
C'est aussi le travail des parlementaires européens de faire connaître leur action.
Oui, bien sûr, mais vous connaissez comme moi aujourd'hui la difficulté parfois qui est celle de sujets de fond d'émerger dans un débat politique qui est parfois plus gouverné par des polémiques stériles que par des débats de fond. Donc ça, c'est une problématique qu'on partage, même si je sais qu'ici à Radio Orient on fait des émissions de fond et c'est pour ça que j'aime venir discuter avec vous. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui a été démontré? Par exemple, que c'était possible à l'échelle européenne qu'une présidence, c'est-à-dire que le pays qui préside le Conseil européen soit sponsorisé par une marque. En l'occurrence, la présidence bulgare, il me semble, en ce moment, est sponsorisée par Coca-Cola. Coca-Cola, entreprise qui a tout à fait intérêt aujourd'hui à ce que les institutions lui soient redevables quand il va s'agir de limiter la quantité de sucre qui a le droit d'être présente dans les aliments. Autre exemple, le parti auquel Emmanuel Macron s'est rallié à l'échelle européenne, ALDE, les libéraux européens, est sponsorisé aujourd'hui par Bayer Monsanto, par exemple, et par un certain nombre d'entreprises qui ont tout à fait intérêt à ce que la réglementation, par exemple, sur le glyphosate ne change pas, et est-ce qu'on n'agisse pas. Donc, aujourd'hui, ces lobbies, ils sont présents. Et
donc
c'est
ça,
important.
Il faut l'interdire.
Ah oui, moi je pense qu'il faut totalement interdire le financement par des groupes économiques de partis politiques. C'est d'ailleurs interdit en France, et donc il faut que cette interdiction, elle soit étendue à l'échelle européenne. C'est inacceptable, mais moi je dis aussi aux citoyennes et aux citoyens, regardez pour qui vous allez voter. Si vous souhaitez voter pour Emmanuel Macron, vous votez aussi pour le glyphosate.
Et si on vote pour Génération, vous n'avez pas de sponsor, il n'y a pas d'entreprise qui vous sponsorise?
Non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout sponsorisé par des entreprises. Mais d'une part, encore une fois, c'est interdit en France, donc on ne le fait pas. Et à l'échelle européenne, notre alliance, le Printemps européen, est une alliance de partis, mais qui évidemment ne fait pas recours à des entreprises privées pour fonctionner. C'est quand même la base de la démocratie, et c'est pour ça que nous avions interpellé très fortement Emmanuel Macron sur la transparence des personnes qui l'ont financé lors de sa campagne présidentielle, parce qu'il est très clair, il y avait beaucoup de dons quand même très élevés, et moi je mettrai ma main à couper pour dire que qu'il a été financé par un certain nombre de hauts cadres du CAC 40 de manière massive, et que c'est aussi ça qui fait qu'il a gagné. Ensuite, il ne faut pas s'étonner d'avoir des décisions qui nous semblent être davantage déterminées par les intérêts des grands groupes privés que par l'intérêt général.
L'invité de Pluriel est Laura Slimani, candidate Génération aux élections européennes. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Laura Slimani, candidate Génération aux élections européennes. Alors, vous nous parlez de lobby citoyen pour lutter contre les lobbies. La défense de l'environnement sera l'un des thèmes importants de cette élection. Génération se veut un parti écologiste, sachant que vous avez peu de chances d'être majoritaire dans les différents pays européens. De quelle manière arriverez-vous à contrer ces lobbies qui disposent d'énormément de moyens financiers ?
D'abord, en étant transparent, hein, je le disais, je pense que l'une des grandes forces des lobbies aujourd'hui, c'est d'opérer en toute opacité. Et donc, nous serons extrêmement transparents et nous demandons à ce qu'il y ait un registre totalement transparent aussi de l'ensemble des lobbies qui sont présents à Bruxelles, et est-ce que les parlementaires européens doivent rendre public leur rencontre avec des lobbies. Parce que c'est aujourd'hui pas acceptable d'avoir des amendements portés par un certain nombre de parlementaires, c'est aussi le cas en France d'ailleurs, qui sont un copier-coller de ce que leur envoie tel ou tel représentant de telle ou telle industrie. Donc, nous demanderont la transparence totale. Ça favorise, on va dire, les comportements vertueux, et donc c'est une manière aussi de limiter le pouvoir des lobbies. Ensuite, il faudra qu'on puisse s'appuyer aussi sur un mouvement citoyen fort, et c'est ça aujourd'hui qui fera la différence. Quand on voit aujourd'hui le nombre de manifestations, j'y reviens, je suis désolée, mais de jeunes qui partout dans le monde demandent à ce qu'une politique forte soit mise en œuvre en matière climatique, il me semble qu'il faudra que ces mobilisations, elles puissent aussi exister lorsqu'il y aura des votes décisif à Bruxelles. Je pense par exemple au traité de libre-échange sur lesquels il y a eu d'ailleurs des mobilisations citoyennes, et il faut qu'elles puissent continuer pour que ces traités ne favorisent pas le libre-échange mais la montée en gamme sociale et écologique en Europe, par exemple.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Laura Slimani, c'est que si vous êtes élue avec les membres de votre groupe, vous ferez connaître en temps réel les enjeux des votes en cours au Parlement européen et vous appellerez les citoyens à faire pression en même temps qu'il y aura le vote.
Oui, il me semble que c'est important encore une fois, de faire connaître les enjeux qui peuvent exister à l'échelle européenne. Encore hier, l'un de nos députés, Édouard Martin, qui est ancien syndicaliste d'ArcelorMittal notamment, des hauts fourneaux de Hayange, dénonçait par le biais d'ailleurs d'une vidéo que, par exemple, la Commission européenne avait décidé de nommer 3 hommes au directoire de la Banque Centrale Européenne, encore une fois, alors qu'il s'agit d'un directoire ultra majoritairement masculin. Eh bien, si lui ne l'avait pas dit, personne ne s'en serait rendu compte. Et donc, c'est important, les parlementaires, ils sont les porte-voix des citoyennes et des citoyens, et donc ils doivent à la fois leur rendre compte, mais aussi les appeler parfois à se mobiliser quand il s'agit de sujets importants pour leurs électeurs.
Donc finalement, les parlementaires européens doivent également être des sortes de journalistes citoyens à l'intérieur du Parlement européen, expliquer ce qui s'y passe, pas seulement prendre des décisions.
Oui, c'est important, et c'est aujourd'hui de toute façon une part importante du travail politique, c'est aussi de rendre compte de ce qui se passe par le biais des réseaux sociaux. Il y a des milliers de possibilités de le faire, et c'est aussi comme ça que les citoyennes et les citoyens se saisissent aujourd'hui d'un certain nombre de sujets. Donc il faut occuper tous les espaces.
Les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui vous aide, vous, Génération, puisque vous avez peu de moyens financiers. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de faire entendre d'autres voix. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu de Gilets jaunes.
Avec les Gilets jaunes, ça s'est aussi vu en Algérie, ça s'était vu lors des printemps arabes. Donc aujourd'hui, bien sûr que les réseaux sociaux sont un espace de débat politique sont un espace de débat politique, peut-être pas comme un autre. Et je pense aussi que finalement, ça répond, la fulgurance avec laquelle certaines mobilisations se déclenchent sur les réseaux sociaux répond aussi à une forme de déconnexion d'un certain nombre de médias mainstream de ce que vivent vraiment les gens au quotidien. Et je pense que quand même aujourd'hui, il faudrait qu'un certain nombre d'éditorialistes, qu'un certain nombre de chaînes détenues d'ailleurs souvent par de grands groupes qui représentent un petit nombre de personnes, eh bien se posent la question de savoir si ce qu'ils disent de la France est véritablement ce que la France est. Et je pense que les Gilets jaunes, ça a aussi révélé cela.
Vous appelez à plus de diversité dans les opinions qui sont exprimées dans les médias.
Oui, bien sûr, il n'y a qu'à écouter France Inter, concurrent de France Inter le matin, avec une chronique économique qui est une chronique ultra-libérale, ultra-favorable à Macron, et qui avant était d'ailleurs contredite par Bernard Maris, qui de manière regrettable aujourd'hui n'est plus
Il est assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Exactement, et il n'a pas été remplacé, donc aujourd'hui il n'y a pas d'éditorialiste économique de gauche, ou en tout cas alternatif un peu à ce que peut être aujourd'hui le néolibéralisme en France. Et c'est dommage, parce que c'est ce qu'entendent les gens au quotidien, et ils en ont marre qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'alternative aux politiques qui sont menées.
Il n'y a pas d'alternative, c'était le mot de Margaret Thatcher. Vous pensez que ce « there is no alternative » est un peu responsable de la montée du populisme ?
Mais bien sûr, et c'est d'ailleurs le piège énorme qui nous est tendu par Emmanuel Macron aujourd'hui, qui nous dit finalement, 30 ans après Margaret Thatcher, comme quoi il n'a rien inventé, qu'il n'y aurait pas d'alternative à ce qu'il propose, à part justement les nationalistes. Alors que c'est bien parce qu'il dit aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'alternative que Marine Le Pen monte. Et on voit bien qu'on nous avait, on a eu ce choix en 2017, ce choix malheureux entre finalement Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On nous disait si vous votez pour Marine Le Pen, vous aurez le chaos et vous aurez une politique migratoire qui sera inacceptable. On voit qu'avec Emmanuel Macron finalement. On n'a peut-être pas exactement la même chose, mais enfin, on a aussi le chaos, parce que les Gilets jaunes, ça fait combien de semaines aujourd'hui que cela dure, et on a des politiques migratoires qui sont les plus restrictives qu'on a jamais eues depuis un grand nombre d'années en France.
Jean-Luc Mélenchon avait raison de ne pas donner de consigne de vote au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui a eu tort de ne pas prendre en considération le fait qu'il n'a pas été élu uniquement par des gens qui croyaient dans son projet, qu'il a été élu par un grand nombre de personnes qui croyaient dans la République et qui voulait protéger la République. Et son rôle, c'est de représenter cela. Ce n'est pas de représenter uniquement la petite minorité de personnes bien nées qui l'ont choisi au départ, en tout cas pour les représenter.
Alors, vous avez évoqué le mouvement des lycéens qui manifestent chaque semaine pour le climat. Il y a aussi une marche prévue demain à Paris. C'est utile pour faire bouger les lignes, ces manifestations ?
Une manifestation à Paris et partout en France. Moi, je serai à la manifestation à Rouen demain. Mais oui, je pense que ce réveil citoyen, il est salutaire en matière environnementale. C'est salutaire aussi qu'ils viennent des jeunes finalement, et moi
c'est votre génération.
J'ai un petit pincement au cœur finalement.
Ancienne présidente du mouvement des jeunes socialistes.
Que ça ne soit pas arrivé quand j'étais plus engagée dans les mouvements de jeunesse, voire lycéenne. Je pense que c'est vraiment c'est un sursaut de vie en fait de ces jeunes qui disent mais en fait vous êtes en train de nous voler notre futur, vous êtes en train de nous voler notre avenir. Et donc j'espère que le gouvernement français et que les institutions européennes et que les gouvernements du monde finalement regarderont ces jeunes. Non pas avec de la condescendance, mais avec de l'admiration et agiront en conséquence. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'en face, il y a encore une fois des multinationales qui sont prêtes à préserver leurs intérêts. Et donc il faut aussi s'attaquer à elles. Je pense à Total, je pense aux banques aujourd'hui qui profitent des énergies fossiles. Ce sont des pouvoirs économiques puissants et il faut s'organiser en face.
Quand Emmanuel Macron dit que le dérèglement climatique, c'est un sujet complexe et il faut qu'on s'y mette tous. Vous êtes d'accord avec sa réponse ?
Mais les gens l'ont pas attendu pour s'y mettre. Enfin, les gens n'ont pas attendu qu'Emmanuel Macron dise il faut qu'on s'y mette tous pour trier leurs déchets, pour consommer moins d'eau.
Mais est-ce que ça suffit l'action des citoyens ?
Mais bien sûr que non. Et c'est pour ça que ce qu'il dit n'est pas acceptable dans la situation actuelle. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait de véritables investissements qui soient menés dans la transition écologique. C'est qu'on arrête de subventionner des entreprises comme Total par le biais, par exemple, du CICE. des baisses de cotisations qui font des profits sur le réchauffement climatique. C'est qu'on fasse payer les pollueurs. Voilà, c'est ça qu'on demande à Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il faudrait, par exemple, supprimer la TVA sur les produits bio, puisqu'ils sont difficiles à... C'est très cher pour de nombreuses personnes.
C'est très cher, mais aussi parce que il y a un certain nombre de marges aussi qui sont faites, notamment dans la grande distribution. Hein. C'est cher parce que c'est plus cher finalement. En fait, c'est cher parce qu'aujourd'hui, le prix des aliments ne reflète pas leur coût environnemental et social. C'est cher, c'est plus cher d'acheter des légumes bio qui ont été... Mais c'est complètement absurde quand on y pense. C'est plus cher d'acheter des légumes bio qui ont été produits à côté de chez vous que d'acheter des légumes non bio qui ont été produits à 3000 ou à 10 000 kilomètres. Donc c'est ça aussi qu'il faut résoudre. C'est finalement refléter, faire aussi en sorte que le coût environnemental puisse être reflété dans la production de biens. Et c'est pas uniquement vrai pour les fruits et légumes. C'est aussi vrai, par exemple, pour l'acier qu'on produit aujourd'hui en France, qui vient de Chine, alors qu'on pourrait le produire en France avec un coût environnemental bien moindre.
Au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, est-ce qu'il faut que tous les Français changent de mode de vie? Est-ce qu'il faut apprendre à être plus sobre dans sa consommation, par exemple? Est-ce que vous êtes pour la décroissance?
La décroissance de certains secteurs, c'est sûr. Par exemple, encore une fois, le secteur des énergies fossiles doit décroître, puisqu'on doit finalement arriver in fine à cesser de les utiliser. Il y a un certain nombre de secteurs qui doivent décroître fortement. Je pense notamment à la question de l'automobile, ou en tout cas qui doivent se transformer massivement. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous, à Génération, on ne met pas la croissance sur un piédestal, la croissance du PIB, comme valeur absolue. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de vivre mieux, de permettre à chacune et à chacun de vivre bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des solutions comme le revenu universel qui ne sont pas un simple ajustement du système tel qu'il existe aujourd'hui en essayant de grappiller des petits points de croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est repenser finalement le modèle économique sur lequel on fonctionne, repenser la question de l'emploi qui se raréfie avec la robotisation. Et on pense par exemple que le revenu universel permettrait aux uns et aux autres de consacrer davantage de temps au travail, à leur travail personnel, au travail qu'ils font au bénéfice de la communauté pour, par exemple, avoir jardiné et produire des légumes, pour aider des enfants ou des jeunes qui organisent un tournoi de foot. Enfin voilà, ça c'est aussi du travail. Nous, on veut reconnaître cela, et c'est à ça que peut nous servir le revenu universel, par exemple.
Le revenu universel, c'est véritablement quelque chose à laquelle vous croyez dans un avenir proche? Est-ce que c'est réalisable, je dirais, de notre vivant?
Oui, je pense qu'on le fera et qu'on y arrivera finalement peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Mais ce qui est inquiétant, c'est effectivement qu'en attendant de faire cela et en attendant de se poser véritablement sur la problématique de la raréfaction du travail, du fait qu'on a besoin de moins de travail pour produire beaucoup de choses, et qu'en plus on produit beaucoup de choses qui sont assez inutiles finalement pour notre quotidien. En attendant, qu'est-ce que ça donne de ne pas faire le revenu universel? Ça donne un chômage qui est important, ça donne des personnes qui aujourd'hui vivent dans une grande pauvreté avec des minima sociaux qui ne permettent pas de vivre dignement. Ça donne des gens qui n'ont pas le temps de se consacrer à autre chose qu'à leur emploi, parce que finalement ils doivent joindre les deux bouts et qui sont tellement mal payés qu'ils n'ont pas d'autre choix que de travailler et d'avoir de cumuler deux emplois, par exemple. Donc c'est ça aussi le résultat de l'absence aujourd'hui de réelle réflexion sur l'avenir du travail. Et à Génération, ce qu'on souhaite, c'est justement être une gauche qui ne se contente pas de ce qu'elle a pu porter dans le passé, mais de penser des solutions d'avenir. Et c'est des solutions qu'on peut porter à l'échelle européenne aussi.
Alors justement, Laura Slimani, vous tentez d'identifier un petit peu Génération par rapport aux autres partis politiques de gauche. Quelle est la ligne, en quoi votre ligne est-elle différente du Parti communiste, du Parti socialiste, de Place publique, des écologistes, de la France insoumise? Qu'est-ce qui vous différencie de ces autres formations politiques de gauche?
Si je les fais toutes, je vais vous donner beaucoup de différences, donc ça sera un petit peu long pour répondre, mais ce qui est certain, c'est que moi, on ne peut que comprendre le désarroi d'un certain nombre d'électeurs de gauche devant effectivement le grand nombre de listes de gauche qui se présenteront vraisemblablement à ces élections européennes, même si les choses ne sont pas encore terminées. À Génération, on a toujours fait le jeu de l'unité depuis le départ. D'abord vis-à-vis de Yannick Jadot, qui n'a pas souhaité être dans cette dynamique d'union. Il n'a pas dit non que à nous, hein, mais aussi à l'ensemble des autres formations politiques de gauche, ce qui est dommage parce qu'on avait une dynamique qui était intéressante lors de la présidentielle, même si elle n'a pas porté ses fruits, mais ça aurait pu être une dynamique d'avenir. Mais ensuite, ce que nous on a proposé, hein, c'est une votation citoyenne universelle. Vos auditeurs en ont peut-être entendu parler. Ce qu'on a souhaité, c'est de pouvoir donner le choix, remettre le choix finalement remettre le choix aux citoyennes et aux citoyens, mais non pas en disant choisissez telle liste ou telle liste ou telle liste, parce que qui aujourd'hui a une identité politique qui se résume juste à l'écologie, juste au communisme, juste au socialisme? Aujourd'hui, les identités de gauche, elles sont plurielles.
L'écologie, elle est portée par tous les partis
de
gauche
aujourd'hui. Et nous disons par exemple qu'il n'y a pas d'écologie sans critique profonde du capitalisme et de l'économie de marché. Bon, bah ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous mettons sur la table et que nous présentons aux électeurs.
C'est une petite pique à Yannick Jadot qui s'est positionné sur l'économie de marché en disant que ça lui convenait.
C'est pas une pique, c'est un constat qui est qu'aujourd'hui, nous faisons le même constat finalement que c'est celui qu'a fait Nicolas Hulot il y a quelques mois, qui est que même le plus écologiste des écologistes, c'est-à-dire Nicolas Hulot, n'a pas réussi à mener une politique écologiste dans un gouvernement qui mène une politique économique libérale. Ce n'est pas possible.
Une différence avec la France insoumise, c'est que la France insoumise souhaite sortir des traités européens. Vous les acceptez tels qu'ils sont ?
Nous, on souhaite les changer, les traités européens. Mais on ne souhaite pas dire à nos concitoyennes et à nos concitoyens, finalement, ces traités ne nous permettent de rien faire. Parce que ce n'est pas vrai. On peut faire des choses aujourd'hui dans le cadre des traités. Par exemple, une des propositions que nous faisons dans le cadre des traités, c'est par exemple de créer un corps européen d'inspection du travail qui puisse aller contrôler, par exemple, les politiques en matière d'égalité salariale au sein des entreprises, qui puisse aller contrôler le respect de la loi environnementale et des réglementations environnementales par les entreprises, qui puisse aller contrôler le respect du droit du travail dans les entreprises. Ça, c'est possible de le faire à traité constant. Voilà, nous on souhaite proposer un projet qui puisse commencer à s'appliquer à traité constant, mais bien sûr aussi rentrer dans un processus de constituante. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne ferons jamais le jeu du pire qui consiste à faire croire aux Français et aux Françaises et aux Européens qu'on serait mieux tout seul. Ça ne fonctionne pas, on voit bien le marasme dans lequel est aujourd'hui le Royaume-Uni politiquement et risque de l'être aussi économiquement. Aujourd'hui, nos défis, je le disais en début d'émission, sont profondément européens et ne seront résolus fortement qu'à l'échelle européenne. Mais ça implique que les citoyennes et les citoyens s'emparent de cet espace qui aujourd'hui effectivement est encore trop à la fois aux mains des lobbies et aux mains de gouvernements qui essayent de favoriser leur intérêt et pas l'intérêt général.
Le philosophe Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il souhaitait être tête de liste européenne et le PS pourrait intégrer cette liste sans en revendiquer la tête, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui avez été présidente du mouvement des jeunes socialistes ?
Il fait son choix, mais je trouve que c'est quand même compliqué d'avoir dit qu'on était dans une démarche d'union pour en fait finalement faire une liste de plus aux élections européennes. Voilà, et d'autant plus quand effectivement on voit assez mal ce qui nous distingue sur le fond.
Raphaël Glucksmann a tenté de fédérer toutes les listes de gauche et Claire
Nouvian. Oui, mais à partir du moment où il n'y est pas arrivé, est-ce que la bonne solution c'est de se présenter lui? Je ne sais pas. Ça me questionne un peu. Mais moi ce que je voulais simplement dire, et ce qui est clair pour nous, et c'est là peut-être une autre différence importante avec un certain nombre de formations politiques, c'est que nous ne ferons pas de coalition avec la droite à l'échelle européenne. Et donc, notre candidat à la tête de la Commission européenne, c'est Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie grecque, qui s'est opposé pour le coup à la Commission européenne quand elle a voulu mettre en place des politiques d'austérité massive en Grèce, avec des conséquences sociales terribles. Voilà. Et nous, notre candidat à la présidence de la Commission européenne, ça n'est pas Frans Timmermans, le candidat aujourd'hui soutenu par les socialistes et les sociodémocrates, qui est en fait un ultralibéral, aujourd'hui d'ailleurs vice-président de la Commission européenne, dans la cogestion. Nous ne pensons pas que la cogestion aujourd'hui est ce qu'il faut pour l'Europe. Nous pensons qu'il faut une option qui soit de gauche et clairement sociale, clairement écologiste. Et c'est la solution que nous proposons à nos concitoyennes et à nos concitoyens.
Dernière question, Laura Slimani. Le syndicat national des gynécologues a menacé de suspendre les IVG parce que la ministre de la Santé ne voulait pas recevoir ses dirigeants. Ce syndicat a fini par se rétracter. C'est une menace qui vous a particulièrement choqué.
Oui, parce qu'en fait, une telle menace n'aurait jamais été faite sur d'autres actes pratiqués par ces professionnels. Par exemple, l'accouchement. Donc, pourquoi l'IVG ? Pourquoi s'attaquer à ce droit qui est aujourd'hui en danger dans un certain nombre de pays d'Europe, qui n'est même pas valable dans un, enfin qui n'existe pas dans un certain nombre de pays d'Europe. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant d'un point de vue déontologique, de la déontologie médicale. Et d'ailleurs, je crois qu'un certain nombre de personnes ont appelé le Conseil de l'ordre à sanctionner les professionnels qui sont à l'origine de cette menace. Et vraiment, le rôle de ces professionnels, c'est de chérir ce droit, c'est de le protéger. Et nous, à Génération, nous demandons l'inscription de l'IVG dans les traités européens, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française et la suppression de la clause de conscience des médecins, qui aujourd'hui, on le voit, est un obstacle à l'IVG, puisque Bertrand de Rochambeau, président de ce syndicat, effectivement, de gynécologues et d'obstétriciens, s'est prononcé contre l'IVG. Lui dit lui-même qu'il ne les pratique pas parce qu'il les compare à des homicides. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir encore ce type de discours en France. Le droit à l'IVG, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps et il doit être garanti par l'État. Je me réjouis que la ministre de la Santé ait réagi fortement. Nous, on a appelé à la démission du président de ce syndicat.
Merci Laura Slimani. Je rappelle que vous êtes candidate Génération aux élections européennes. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.